Vous entendez ce feu qui crépite ? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous êtes en quête de frissons, de sueurs froides et de visions cauchemardesques qui viendront perturber vos nuits. Eh bien, vous êtes bien tombé. L'angoisse, c'est ma spécialité. Je suis Taous Merakchi et vous écoutez Feu de camp, le podcast d'Énergie Création qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Alors prenez place, installez-vous confortablement près de moi, éteignez les lumières, concentrez-vous et tendez bien l'oreille. Après notre voyage transatlantique dans la maison d'Amityville, nous allons cette fois nous contenter de traverser la Manche pour nous rendre dans la ville de Londres, à la découverte d'un récit terrifiant, celui du poltergeist d'Enfield. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que cette maison hantée a été rendue célèbre par deux événements. L'intervention des époux Warren, les fameux enquêteurs du paranormal qui s'étaient également rendus à Amityville justement, puis l'adaptation de l'enquête au cinéma par James Wan dans le film The Conjuring 2. Si vous ne connaissez pas encore l'histoire, alors accrochez-vous, ça va secouer. Tout commence en 1977, dans une petite maison modeste du quartier d'Enfield, dans le nord de Londres, où vivent Peggy, une mère célibataire, et ses quatre enfants. Billy, 7 ans, Johnny, 10 ans, Janet, 11 ans, et Margaret, 13 ans. Au beau milieu de la nuit, les cris paniqués de Janet et Johnny retentissent dans la maison, suppliant leur mère de venir à leur secours. Ils assurent que leur lit bougeait et remuait tout seul, mais Peggy ne les prend pas au sérieux et est persuadée qu'il s'agit d'un cauchemar ou d'un canular. Mais la nuit suivante, ils recommencent et l'appellent à nouveau à leur chevet. Le problème, cette fois, ils ont entendu un drôle de bruit de frottement sur le parquet de leur chambre, semblable à celui que feraient les pieds de quelqu'un qui porte des pantoufles. Et cette fois, Peggy l'entend aussi. Mais ça ne s'arrête pas là, car soudain, quatre coups retentissent subitement dans la chambre. Mais les bruits, ça s'explique. Sans doute que la maison est trop vieille. Peut-être les fondations qui craquent, des animaux qui vivent dans le grenier. Et si c'était les voisins qui faisaient des leurres? Ce qui suit, en revanche, est plus difficile à expliquer. Sous le regard horrifié de Peggy et de ses enfants, une commode se met à glisser toute seule sur le sol, mue par une force invisible, se déplaçant d'une trentaine de centimètres. Peggy se jette alors dessus pour la remettre à sa place, mais immédiatement, la commode se remet à bouger d'elle-même. Alors qu'elle s'apprête à la replacer à nouveau, Peggy constate avec stupeur que la commode refuse complètement de bouger. Elle appuie tout son poids dessus, mais rien. Le meuble semble être complètement figé sur place. Terrorisée, Peggy rassemble ses enfants, file chez ses voisins d'à côté et tambourine à leur porte. Alarmée par l'état de panique dans lequel la famille se trouve, Vic Nottingham et son fils se rendent donc dans la maison pour constater les événements par eux-mêmes et doivent se rendre à l'évidence. Quelque chose de très étrange se trame dans la maison voisine. Alors qu'ils la parcourent à la recherche d'un intrus, ils sont suivis par des bruits de coups sur les murs, mais ils ne trouvent aucune trace d'un autre être vivant. Après avoir exploré chaque recoin de la maison, ils décident d'appeler la police. En théorie, c'est à ce moment-là de l'histoire que les esprits frappeurs, ou poltergeists, décident de cesser leur simagrée, forçant les habitants de la maison à passer pour des bonimenteurs auprès des forces de l'ordre. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors qu'un des policiers est en train de vérifier la tuyauterie à la recherche de la source des bruits étranges, sa partenaire, se trouvant dans le salon, est témoin d'une scène qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Devant elle, une chaise se met à osciller de gauche à droite, avant de glisser brutalement sur plus d'un mètre à travers la pièce. Information qui figurera ensuite dans le rapport de police officiel, fait rare dans les affaires dites surnaturelles. Malgré cet événement, puisqu'aucune menace physique et aucune cause tangible ne fut trouvée par les policiers, ils sont forcés de quitter la maison sans élucider quoi que ce soit. Loin d'être effrayés par l'intervention des forces de l'ordre, le poltergeist décide alors de faire monter la pression. Le jour suivant, le petit Johnny se retrouve témoin d'une scène terrifiante. Ses billes et ses Legos se mettent soudainement à voler à travers sa chambre sans que personne ne les touche. Lorsqu'il vient à son tour constater les dégâts, le père de Peggy ramasse une des billes de Johnny et constate avec inquiétude qu'elle est extrêmement chaude. pendant 3 jours, les billes continuent de voler régulièrement, poussant Peggy à tenter une nouvelle approche. Elle décide de contacter la rédaction du Daily Mirror pour raconter son histoire et trouver peut-être quelqu'un qui pourra l'aider à mettre fin à ce cauchemar. Le journaliste Douglas Benz et le photographe Graham Morris sont alors envoyés par la rédaction pour enquêter sur cette histoire. Ils passent un moment dans la maison, recueillent les témoignages de la famille et attendent patiemment que le poltergeist se manifeste. En vain. Tout est calme, parfaitement normal, et ils repartent bredouille. Mais à peine passent-ils la porte de la maison que les billes et les Legos se remettent à voler dans tous les sens. Peggy hurle à Douglas et Graham, qui rejoignaient leur véhicule, de revenir immédiatement. Graham dégaine son appareil photo. Alors qu'il tente d'immortaliser les événements, un Lego le frappe en plein visage. Graham et Douglas reviennent quelques jours plus tard, accompagnés cette fois-ci d'un autre reporter, George Fallows. C'est lui qui prononcera le mot poltergeist pour la première fois concernant cette affaire. Il avance aussi une théorie plus ou moins connue des spécialistes du paranormal. Les poltergeists sont particulièrement actifs en présence de jeunes filles en pleine période de puberté, ce à quoi Peggy lui répond que Margaret a justement eu ses premières règles récemment. Une fois convaincu de la véracité des événements, George, le reporter, lui conseille de contacter la Société de recherche psychique. Fondée en 1882, son but est d'enquêter sur les phénomènes inexpliqués à travers le pays. Mais, étonnamment, alors qu'on pourrait croire que le témoignage de Peggy suffirait à titiller la curiosité des membres d'un tel club, un seul d'entre eux a mordu à l'hameçon. Maurice Gross. L'une des raisons de cette motivation ? Maurice a perdu sa fille dans un accident de moto l'année précédente, et son prénom était Janet, comme la plus jeune des filles de Peggy. Intrigué par le récit qui lui a été fait des événements survenus dans la maison, Maurice s'y installe donc pour cohabiter avec la famille dans l'espoir d'assister lui aussi à ces manifestations. Il ne lui faudra que 3 jours pour en être à son tour témoin, en compagnie des 3 reporters du Daily Mirror. Au milieu de la nuit, ils sont tous réveillés par un énorme bruit provenant de la chambre de Janet. En ouvrant la porte, ils se retrouvent tous face à une chaise qui semble devenue folle et qui traverse la pièce sans que personne ne la touche. Pour s'assurer que Janet n'y est pour rien, Maurice s'approche d'elle alors qu'elle semble être encore endormie malgré le fracas. Il soulève son bras et le laisse retomber. Rien. Il pousse sa tête. Rien non plus. Pas de doute. Janet est profondément endormie. Au fil des semaines qui suivent, Maurice n'est jamais directement témoin d'événements autres que celui-ci. Il entend des choses et il écoute ce que les membres de la famille lui rapportent, mais ne constate rien par lui-même. Il se rend néanmoins à une réunion de la Société de recherche psychique et annonce à l'Assemblée qu'il est actuellement en plein milieu d'une enquête et qu'il aurait bien besoin d'assistance. À son retour dans la résidence d'Enfield, Maurice assiste enfin directement à une manifestation de l'entité, lorsque des billes qui semblent provenir de derrière les enfants se mettent à nouveau à voler à travers la pièce et frôlent sa tête. À peine remis de cette expérience, il entend Peggy s'exclamer qu'elle entend du bruit dans la salle de bain. Maurice s'y rend et se retrouve face à la porte qui s'ouvre et se ferme toute seule 4 fois d'affilée, avant de ressentir un courant d'air très froid, phénomène fréquent en présence de poltergeist. Après ça, Maurice assiste à une autre manifestation. Alors que Janet entre dans sa chambre, il s'aperçoit qu'elle est suivie de près par 3 billes qui s'éclatent contre sa porte à son passage. Le plus étonnant, c'est que lorsque les billes retombent par terre, Maurice réalise qu'elles ne rebondissent pas et qu'elles ne roulent pas non plus. Elles restent exactement là où elles ont atterri. Guy Playfair, l'un des membres de la Société de recherche psychique ayant assisté à la réunion à laquelle Maurice avait demandé de l'aide, décide de se joindre à lui après avoir entendu une interview de Peggy et de sa voisine à la radio. Lorsqu'il arrive dans la maison en septembre 1977, il se retrouve plongé dans une ambiance tellement tendue que la simple apparition d'une araignée dans la cuisine suffit à plonger tous les membres de la famille dans un état de panique ultime. Un jour, Peggy et lui observent un genre de renfoncement de la taille d'une tête d'enfant sur l'oreiller de Janet, comme si quelqu'un était couché là, alors que le lit est vide. C'est suite à cet événement que Peggy développe une théorie sur l'esprit qui hante sa maison. Elle est désormais convaincue qu'il s'agit du fantôme d'une petite fille qui habitait dans la rue. L'enfant est morte dans des circonstances tragiques, puisque c'est son propre père qui l'a étouffée avant de se donner la mort. Non seulement elle les connaissait, mais elle a récupéré certains de leurs meubles après leur décès, et elle est donc persuadée que l'esprit de la petite fille y est resté attaché. D'ailleurs, elle est désormais capable de prédire quand l'esprit va se manifester, puisqu'elle constate qu'elle ressent une douleur à la tête exactement au même endroit, quelques instants avant chaque incident. Mais les choses n'en restent pas là. Les billes qui volent et les chaises qui glissent sur le sol ne sont pas les seules armes de ce poltergeist, car bientôt viennent les apparitions. La première est constatée par le frère de Peggy, qui vit à quelques maisons de là dans la même rue. Alors qu'il se trouve devant la maison, il aperçoit une boule de lumière derrière une des fenêtres qui disparaît progressivement. Puis, le même jour, Peggy et son voisin voient quelque chose de plus terrifiant. Le visage d'une vieille femme aux cheveux gris apparaît derrière d'autres fenêtres. Plus tard, c'est Johnny, l'aîné des deux garçons, qui affirme avoir vu un vieil homme aux grosses dents blanches apparaître devant lui. Guy Playfair décide alors de faire venir un couple de médiums, Annie et George Shaw, pour voir s'ils sont capables d'entrer en contact avec l'entité, afin de l'identifier et de potentiellement trouver un moyen de s'en débarrasser. Annie explique alors à Peggy et à sa famille qu'elle va inviter l'esprit à la posséder et à parler à travers elle, et qu'il ne faut pas en avoir peur. À peine a-t-elle lancé l'invitation au poltergeist qu'un rire de sorcière explose de sa gorge, retentissant dans la pièce et glaçant le sang de toutes les personnes présentes. Puis, elle se tourne brutalement vers son mari et lui crache dessus avant de s'écrier « Gozer ! Gozer, aide-moi ! Elvie, viens ici !» Une fois sortie de sa transe, Annie explique que Gozer est un homme qui pratiquait la magie noire et Elvie, un esprit peu puissant dont Gozer se servait dans sa pratique. Après cette séance, Annie et George entreprennent de nettoyer l'aura de Peggy pour la débarrasser de l'influence de ses esprits et lui permettre de retrouver une vie normale. Et ça fonctionne. Pour un temps. Une semaine exactement. Les choses reprennent de plus belle après cette période de calme et deviennent encore plus violentes. Les draps sont arrachés des lits par des forces invisibles et les bruits de coups qui retentissent dans la maison sont si violents que même les voisins les entendent. Pire encore, les apparitions se font de plus en plus agressives. Une nuit, Janet est réveillée par une présence inquiétante. Alors qu'elle ouvre les yeux, elle réalise qu'un homme est assis sur une chaise à côté de son lit. Elle n'a même pas le temps de crier. Le spectre plaque sa main sur sa bouche et son nez, tentant de l'étouffer. Plus tard, alors que Maurice Gross tente de communiquer avec l'entité en lui posant des questions auxquelles ce dernier répond par des coups, un pour non, deux pour oui, il apprend qu'il s'agit de l'esprit d'un homme qui a vécu et qui est mort dans cette maison. Quand il lui demande s'il est malheureux ou s'il a un message à faire passer, il répond non. Puis, visiblement impatient, il fait voler une boîte en carton en direction du visage de Maurice. Tout ceci est enregistré. Un jour, Peggy demande à l'esprit d'écrire ce qu'il a à lui dire plutôt que de frapper sur les murs. Et à sa grande surprise, quelques minutes plus tard, elle trouve un message sur le frigo sur lequel il est écrit « Je vais rester dans cette maison. Ne lis ce message à personne d'autre ou je riposterai. » Dans les mois qui suivent, des dizaines de personnes assistent à différents événements paranormaux. L'état de Janet, quant à lui, s'empire, la plongeant régulièrement dans des transes au cours desquelles elle se met à crier des phrases qui n'ont pas de sens, avec une voix qui n'est pas la sienne. À plusieurs reprises, Maurice Gross enregistre les interrogatoires de l'esprit qu'il mène à travers Janet. On entend distinctement une grosse voix démoniaque sortir du corps de cette fillette de 11 ans. Le cauchemar de la famille durera 18 mois en tout. Et contrairement à ce que l'adaptation au cinéma a tenté de nous faire croire, les époux Warren n'y sont absolument pour rien dans la résolution de l'affaire. Ils ont effectivement rendu visite à Peggy et à ses enfants, constatant par eux-mêmes la présence d'une entité surnaturelle dans la maison, mais ils sont repartis aux États-Unis sans mettre fin à ce calvaire. C'est suite à la visite d'un médium néerlandais en octobre 1978 que la situation se calme enfin. Il ne lui faudra qu'une trentaine de minutes dans la chambre de Janet pour affirmer que le poltergeist a enfin quitté les lieux. Pour autant, les phénomènes ne prennent pas entièrement fin à ce moment-là. Janet racontera plus tard qu'ils ne se sont jamais totalement arrêtés, mais que la situation s'est radicalement calmée et est devenue plus vivable suite à cette intervention. Les époux Warren sont même revenus en 1979 et ont constaté d'autres événements paranormaux, mais rien d'aussi spectaculaire. Depuis, Janet a admis avoir menti sur quelques événements et être à l'origine de certains phénomènes. Elle déplore les conséquences négatives que la médiatisation de l'affaire a eues sur sa vie et celle des membres de sa famille. La carrière de Maurice Gross en a également pâti, mais tous les acteurs et témoins de l'affaire maintiennent encore leur version des faits aujourd'hui, faisant du poltergeist d'Enfield l'une des histoires les plus convaincantes qui existent. Feu de camp est un podcast d'Énergie Création, écrit par Taous Merakchi. Retrouvez une nouvelle histoire vraie et paranormale toutes les deux semaines sur toutes les plateformes de podcast et sur energie.fr, rubrique podcast. Merci d'avoir écouté Feu de camp.